Votre ami Riton n'est pas là.
Ah non, il est à la grenouille.
À la grenouille.
C'est au deux, mon amour.
Où ça? À l'étang des trois curés. J'y vais. Une gaule et la ligne.
Mais prenez ma canne dehors et toutes montées. Attendez, je vais vous donner un hameçon.
Ah, pas besoin. Oh là là.
Ah bon?
Avec Denis Chesson.
Dites, Pépé, on joue pas, on a une commande de 20 douzaines pour le grand hôtel demain soir.
Tu me connais pas, fiston. Tu sais pas qui c'est, la reinette.
Sur France Inter.
Non, on va pas parler de grenouilles et de crapauds, on va parler de papillons, t'es dedans, mais en tout cas, c'est de la nature. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour, une émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, en tout cas qui essaie, avec Guillaume Roux, aujourd'hui à la technique, et nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès et Henri Marc Mutel, et c'est Camille Blanès qui réalise l'émission. Même pas cap, même pas cop, cop 21, 22, 23, 24, eh ben non, même pas cop. Notre jolie France, qui est déjà à plus de 1,5 degré de réchauffement climatique depuis l'ère pré-industrielle, est aussi gentiment en dehors des clous, comme pas mal de pays. En 2017, nos émissions censées baisser sont reparties à la hausse. Et pourquoi? Parce que simplement, le carburant a été moins cher. Et Total, quand même, très très bien placé dans le package, hein, effet de serre. Très très bien. La semaine dernière, à Katowice, quatre gros producteurs de pétrole et de gaz, à savoir les États-Unis, le Koweït, la Russie et l'Arabie Saoudite, face au stimulant rapport du GIEC, ont eu, on va dire, un peu de mal à trouver les mots pour l'accueillir. Bref, ils ont refusé d'intégrer les résultats de ce rapport et se sont assis dessus. Déni de réalité, un de plus, et les scientifiques à la poubelle. Alors que voulez-vous ? Il y a des modes de vie qui ne sont pas négociables. Le seul problème, c'est que dans quelques temps, ce seront les modes de survie qui ne seront pas négociables. Alors évidemment, faire une COP pour la troisième fois en Pologne où le charbon est une religion d'État, on va dire que c'est un sujet mineur. Et le chat de Gay-Luc dans Le Parisien a bien résumé l'affaire aujourd'hui. Nous n'avons pas respecté les engagements de la COP 20, 21, 22 et 23, mais cette fois ça va changer. Oui, nous ne prendrons plus d'engagement et nous allons nous y tenir. Alors ça va être un très joli feuilleté de sujet, comme le disait donc Camille Blanès, feuilleté de sujet avec un magazine dont on va tourner les pages sonores. Vous aurez droit à une start-up qui tente de décarboner un peu les bâtiments, une parole de jeune, un jardin aux papillons du côté de Digne, une association d'entreprises 1% pour la planète et puis aussi vos messages. Et on va quand même débuter du côté de Romainville. Alors Romainville, on n'est pas très loin de Paris, on est à 2 km et là vous avez une corniche d'efforts à Romainville où ça chauffe un petit peu, on est à l'est de Paris. Bonjour Julie Lefebvre.
Bonjour Denis. Alors, on est sur un coteau au nord de Paris et on est sur un espace, un ensemble de parcs de 64 hectares, au cœur duquel il y a une forêt de 27 hectares.
Et donc, à partir de là, bon, jusqu'à présent, c'était des carrières de gypse, donc on ne pouvait pas forcément y accéder parce que c'était dangereux. La nature a donc repris ses droits. Et qu'est-ce qui se passe? De quoi est menacée une partie de ce lieu?
Alors, tout à fait. Donc, sur 27 hectares, vous avez cette nature qui est redevenue sauvage, qui abrite un certain nombre d'animaux, beaucoup d'espèces aussi de clématites, de lianes, beaucoup de végétaux. Donc, on a vraiment une impression de jungle.
Même si on parle d'ailleurs même si on parle plutôt de nature ordinaire.
Hein. Voilà, il y a des espèces, effectivement, qui sont quand même intéressantes, mais qui ont le malheur de ne pas être protégés. Donc voilà, et il y a un vieux projet de base de loisirs. Alors au départ, c'était de raser toute cette forêt. On n'en est plus là. Là, c'est 8 hectares qui vont être comblés et une grande partie défrichée, 40 000 m2, pour faire un espace de loisirs, alors qu'il y a des parcs tout autour qui ne sont pas entretenus.
En fait, c'est ça, votre credo, c'est de dire il y a des parcs autour qui sont déjà existants, ceux-là ne sont pas forcément entretenus, on pourrait peut-être les entretenir davantage avant d'aller capter une douzaine d'hectares de ce lieu.
Tout à fait. Là, il y a 650 arbres qui ont été abattus, c'est pas fini. Et il y a vraiment des parcs où il y avait même des espaces de jeux, des espaces pour des agrès, etc., qui ne sont plus pourvus et qui ne sont pas entretenus. Donc pourquoi détruire cette forêt qui est importante, parce qu'elle est à 2 km de Paris, parce que c'est aussi un écosystème qui a pu vivre sur un sol qui n'était pas facile, parce qu'il y a des problèmes de pollution, etc. Donc pourquoi détruire cet écosystème alors qu'il y a vraiment de quoi faire un très très joli parc de 60 hectares pour ce coteau?
Alors on va vous dire aussi que ça va être un lieu pour les enfants, pour les adultes, et que cette base de loisirs permettra même peut-être aussi de s'intéresser à la nature.
Tout à fait. Donc nous, ce qu'on demande, c'est plutôt un aménagement, maintenant que ces arbres sont tombés, un aménagement forestier. On demande de la pédagogie, de la prise en compte du patrimoine. Et tout ça, c'est quand même des aspects qui sont minorés sur le projet, parce que c'est dirigé par la direction des sports à la région. Et du coup, on est vraiment sur des aménagements agréés, type mini-mur d'escalade, qui peuvent tout à fait trouver leur place sur les pourtours.
Alors, Julie Lefebvre, il y a quand même eu beaucoup de monde qui a signé des pétitions, des gens connus, de Montreuil d'ailleurs. Qu'est-ce que ça révèle, une fois de plus, ce genre, on va dire, d'agression, entre guillemets, sur un lieu comme celui-là?
Je pense que ça révèle un grand décalage entre des projets d'aménagement et une urgence environnementale. Ça révèle aussi une faillite, à mon sens, démocratique, puisque personne n'a été associé vraiment de façon sérieuse à ce projet. Donc voilà, donc au bout du compte, on arrive dans une opposition, et pourtant, il y a eu cette tribune signée de personnalités comme Gilles Clément, il y a eu cette pétition en ligne sur Change.org qui rassemble quand même plus de 26 000 personnes qui parlent de leur désir d'arbre. Et puis maintenant, il y a aussi des gens qui bloquent le chantier sur le terrain, mais qui... Voilà, ça fait prendre un risque à tout le monde, alors que je pense que par le dialogue, on aurait pu trouver une solution qui soit acceptable et qui permette aux gens de profiter de cet espace, mais tout en préservant la nature.
Julie Lefebvre, dans cette histoire, il y a un coût environnemental, écologique et aussi un coût économique.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a plus de 27 millions qui ont été engagés depuis les années 2000 sur ces 64 hectares pour finalement des espaces très peu gérés. Et puis là, on rajoute encore 14 millions, dont 8 millions pour le comblement, alors qu'on aurait pu imaginer des choses beaucoup plus légères, des passerelles, des micro-architectures. On a fait travailler des étudiants, c'était très très enthousiasmant sur leurs propositions. Et je pense que tout ça aurait eu le mérite d'être débattu et d'être étudié avec les habitants et puis avec toutes les parties prenantes. Et je pense que ça aurait donné un projet beaucoup plus fédérateur.
Qu'est-ce que c'est la suite maintenant, Julie Lefebvre ?
Eh bien, la suite, on devait avoir une réunion là pour parler des usages qui a malheureusement été annulée. Il y a encore des gens sur le terrain, mais voilà, il y a des heurts sur le terrain, etc. Donc, je pense qu'il faut qu'on sorte de cette situation de crise et qu'on puisse retravailler ce projet au moins sur la partie en surface, sur les usages. Et puis après, il y a des gens aussi qui pensent à un recours juridique. Peut-être qu'il y a une autre façon de sortir de cette crise.
Merci à vous, Julie Lefebvre. Donc, on a un exemple de ces forêts périurbaines en Île-de-France qui sont quand même assez malmenées parce que malheureusement, ce n'est pas la seule. Et puis, on vous souhaite le meilleur. À bientôt, Julie Lefebvre.
Merci beaucoup. Au revoir.
Et puis, vous avez entendu les sommes. Hein, ça prouve qu'on a de l'argent. Ça prouve que tout va bien quand même. Voilà. Il y a un truc entre les élus et les arbres. Francis Allais avait écrit un bouquin, d'ailleurs, j'avais reçu à l'époque, dessus. Je crois qu'il avait fait un livre qui était « Lettre ouverte aux élus qui n'aiment pas les arbres ». Il y a un truc comme ça. Quel que soit le nord, sud, ouest de la France, partout, c'est quand même comme ça que ça se passe. Nous allons avoir dans quelques instants, je vous donne la suite du menu, une start-up qui stocke du chaud en été pour l'utiliser en hiver et une parole de jeune qui va nous venir depuis Toulouse. Maybe I was blind, I was young, I didn't have a clue. You are the topic of my lunch times. I'd bore the girls about our chats and get upset when you didn't text back. I was warned by my brothers to find another.
Have it when we got it, we don't seem to want it. We all want a teenage fantasy. Want it when we can't have it. When we got it, we don't seem to want it.
Ah bah oui, mais il faut rire. Teenage Fantasy, c'était Thierry Dupin qui a choisi donc ce disque maintenant. Georgia Smith donc sur France Inter, CO2 Mon Amour. On poursuit notre ronde de sujets.
Atmosphère. Est-ce que j'ai eu une gueule d'atmosphère? J'ai trouvé ça comique, une gueule de gaz carbonique. J'ai pensé que c'était bête, le réchauffement de la planète. Ça m'a fait des frissons, la combustion du charbon. Ça m'a mise en colère pour le système solaire.
On a retrouvé ça donc dans nos petites archives, L-Facteur Atmosphère, pour lancer ce sujet avec vous, Pierre Trémolière de l'entreprise Accenta, donc start-up. Vous êtes une douzaine de personnes. Et alors, ce qui est du chaud en été pour l'utiliser en hiver, racontez-nous, parce que ça, Pierre Trémolière, ça peut être tout à fait intéressant.
Alors en fait, effectivement, donc on a développé une solution de stockage des énergies renouvelables décarbonées au pied des bâtiments pour pouvoir décarboner le chauffage et la climatisation des bâtiments.
Vous récupérez la chaleur des climatiseurs ?
Alors, on récupère effectivement la chaleur, ce qu'on appelle la chaleur fatale, la chaleur perdue des climatiseurs. Et au lieu de les mettre dans l'air, on va aller la stocker dans le sol pour pouvoir la récupérer pour chauffer le bâtiment en hiver par la suite.
Donc, le grand truc que vous avez, c'est à la fois le système pour récupérer cette chaleur. Mmh. Bon, ça doit peut-être déjà exister, mais après, peut-être de le stocker ?
Exactement. C'est-à-dire que c'est des technologies qui existent depuis assez longtemps, oui, mais par contre qui n'ont pas été bien optimisées pour pouvoir à la fois très fortement décarboner le chauffage et la climatisation et à la fois être efficace d'un point de vue économique. Parce qu'on gagnera la transition énergétique et environnementale si elle est compétitive. Les gens veulent participer à cette transition, mais par contre, ils peuvent pas payer 10 fois le prix de leur énergie actuelle. Donc, tout notre enjeu de recherche et de développement, c'est d'arriver à faire un système qui à la fois fasse le boulot de la décarbonation, parce que c'est un enjeu majeur de cette transition énergétique et environnementale, mais que les gens puissent se le payer, donc que ce soit pas trop cher. Et ça, on a pu le faire en utilisant des technologies d'intelligence artificielle et de machine learning, couplées effectivement à des technos qui sont existantes depuis pas mal de temps, des sondes géothermiques par exemple, que l'on n'utilise pas pour la géothermie, pas pour aller chercher la chaleur qui est dans le sol, mais pour aller squatter le sol, pour stocker ces productions d'énergie renouvelable d'été, ou cette chaleur fatale, cette chaleur des processus de climatisation, d'aller récupérer cette chaleur d'été, la stocker dans le sol pour la ressortir en hiver et faire le chauffage.
Mais alors, quand on dit la stocker dans le sol, ça veut dire qu'il y a un contenant de cette affaire-là ou...
Tout bêtement, on va utiliser des sondes géothermiques. Les sondes géothermiques, qu'est-ce que c'est? C'est des tuyaux noirs que vous voyez pour arroser les plates-bandes. Mm-hmm. C'est aussi bête que ça. Simplement, on va les planter dans le sol à la verticale. On va faire, en été, rentrer de l'eau chaude qui va, par contact physique sensible, irriguer la chaleur dans la roche. Et en hiver, c'est l'inverse. On va faire rentrer dans ce tuyau noir de l'eau froide qui, par contact sensible, va récupérer cette chaleur et va ressortir de la roche avec une eau chaude qui va permettre de faire le chauffage.
Ce qui veut dire qu'on peut récupérer de la chaleur du mois d'août et l'utiliser au mois de février.
Exactement. Et donc se passer des énergies fossiles qui sont responsables, c'est la principale source d'émissions de CO2 du bâtiment.
Ça touche qui d'ailleurs? Les particuliers, les entreprises, les collectivités?
Alors nous, pour l'instant, on fait principalement des solutions pour les entreprises. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir des grands bâtiments. Mais évidemment, on pourra par la suite diminuer et faire des plus petits systèmes pour aller jusqu'aux particuliers.
Alors Pierre Trémolière, on est parti sur le climatiseur en se disant on récupère, mettons, la chaleur du climatiseur et puis on arrive aussi sur la chaleur de la roche. Donc, fait tout le lien là.
Oui, parce que on utilise des technologies qui sont utilisées, les sondes géothermiques, qui sont utilisées en géothermie,
oui,
pour aller chercher la chaleur naturelle de la roche. Mais pour faire ça, quand on fait une solution géothermique, il faut des centaines de mètres de sondes pour, oui, aller chercher cette chaleur. Alors que nous, il faut des dizaines de mètres, parce que on n'utilise pas la roche pour sa chaleur naturelle, on utilise la roche pour stocker une chaleur produite soit par les climatiseurs, soit par du photovoltaïque, par exemple.
Et alors, vous êtes à la sortie du climatiseur, enfin, l'endroit où il y a donc de l'air chaud, inévitablement, quand même, aussi.
Absolument. Au lieu de l'envoyer dans l'air et d'ailleurs contribuer à réchauffer nos villes, on va avoir un petit échangeur d'eau qui va permettre de récupérer cette chaleur et de la canaliser vers notre unité de stockage pour la récupérer par la suite.
Ah mais écoutez, monsieur, il faut venir au bureau pour remplir une demande de branchement.
Mais j'ai pas besoin de remplir une demande. Quand j'ai fait installer les lampes à pétrole, et on m'a rien demandé du tout. J'ai acheté ma lampe, j'ai mis le pétrole, j'allume et ça fait la lumière.
Ah d'accord, une lampe à pétrole, mais pour l'électricité c'est différent, monsieur. Vous venez, il faut amener la ligne, enfin il faut... Moi je ne sais pas, moi, mais il y a toute une installation à effectuer avant de vous établir le courant. Il faut vous poser les compteurs.
Et quel compteur? Pourquoi faire un compteur?
Pour amener le courant, monsieur.
Mip, mip.
Alors, quel est le résultat en fait, de ce système de chaufferie donc sur l'empreinte carbone et sur la consommation énergétique?
Alors, c'est très important puisqu'on diminue de près de 50% les consommations énergétiques du bâtiment et on diminue de 90% les émissions de CO2. Donc, c'est non négligeable quand on sait que le bâtiment, c'est 27% des émissions de CO2 de l'activité humaine.
Alors, est-ce que vous avez déjà des exemples d'applications aujourd'hui de cette technologie sur des bâtiments?
Première application, c'est le siège social d'Airbus à Toulouse où on chauffe 38 000 m² grâce à ce système, chauffage et climatisation, avec un rendement formidable et une décarbonation du type de celle que je vous ai citée.
Pendant que les avions réchauffent le ciel, c'est bon, encore autre chose.
Ouais, voilà. Il y a encore quelques...
Oui, d'accord.
Et puis là, on fait un éco-quartier dans le nord de Paris. Ouais. On commence par 20 000 m², mais il y a un programme beaucoup plus important derrière. Et toujours avec l'obsession de faire quelque chose qui est à la fois hyper efficace, mais compétitif par rapport au gaz et au fioul, pour ne pas les citer, parce que sinon on n'arrivera pas à démocratiser le bâtiment bas carbone.
Est-ce que vous avez beaucoup de concurrence aujourd'hui ?
Pas tant que ça, parce que je pense que la prise de conscience chez les énergéticiens est encore un petit peu lente. Alors comme ce sont des humains, ils sont en train de le prendre en compte parce que la taxe carbone leur fait très mal. Et donc là, maintenant, il y a une vraie prise de conscience chez les énergéticiens, mais aussi chez les promoteurs immobiliers, qu'ils vont être obligés d'amener des réponses pour, entre guillemets, quitter un peu le greenwashing du bâtiment vert, faux vert, pour faire vraiment des bâtiments verts. Mais ça va forcer tout le monde à basculer vers des bâtiments vraiment verts.
Ça veut dire qu'en fait, on va se caler cette fois-ci sur la réalité de la consommation du bâtiment.
Exactement. On avait des bureaux d'études qui conçoivent soit les bâtiments neufs, soit les bâtiments à rénover, qui font des calculs un peu théoriques. Et en fait, la réalité de la consommation du bâtiment est tout autre. Et donc, notre intelligence artificielle, elle permet de coller à la réalité de la consommation du bâtiment pour ne préparer que la juste quantité de chaleur
délivrer
au
la juste quantité.
Moment.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Et ça, ça change tout parce qu'on fait des gains considérables. C'est là où on gagne les 50% de consommation d'énergie en moins et où on fait le break par rapport à ce qui existe aujourd'hui.
Pierre Trémolière, la meilleure énergie, évidemment, c'est celle que l'on ne consomme pas. Bien idéalement, sûr. C'est d'avoir quand même des bâtiments qui ne soient pas des passoires thermiques. Donc, bien d'avoir sûr. Des choses qui sont isolées. Voilà, donc vous vous inscrivez comment ?
Alors, je pense que c'est très complémentaire. C'est-à-dire, bien sûr, il faut rénover l'enveloppe. Mais rénover l'enveloppe, ça a des limites. D'abord, ça devient très très cher. Plus vous voulez diminuer votre consommation énergétique, plus la rénovation de l'enveloppe coûte cher. Et donc, on peut se poser aussi la question, à côté de la rénovation de l'enveloppe, de passer à un système énergétique qui soit nativement décarboné. Parce que, certes, on peut compenser les émissions des énergies fossiles, mais autant utiliser un système énergétique qui... lui, n'émet pas de carbone, ou très peu de carbone, pour être précis. On peut équilibrer entre les deux. On n'est pas obligé de tout mettre dans l'enveloppe. On peut aller traiter le problème à la racine, entre guillemets, en utilisant des énergies décarbonées.
Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe, je n'irai pas plus loin.
Et donc, vous avez allé contre le slogan « chauffe Marcel », c'est-à-dire que vous avez déchauffe Marcel.
Exactement, on y va doucement.
Très bien, merci beaucoup Pierre Trémolière, et puis bonne douceur.
Merci beaucoup Denis.
Pierre Trémolière de Accenta, oui, on n'a pas pu résister avec Vesoul. Bah, c'est comme ça, de temps en temps, qu'est-ce que vous voulez. Un petit message au 801 56 40 40 35.
Bonjour, je souhaiterais porter à votre connaissance un projet insensé pour l'implantation d'un parc éolien en pleine forêt des Colettes, proche de la forêt de Poncet, soit 10 éoliennes de 200 mètres, menées sans concertation préalable et décision entre l'ONF, la commune de Belnave, le DPR. Une association a été créée le 1er août 2018, Sauvons la forêt des Colettes. plus de 2700 signataires de la pétition. Ce projet impliquerait déforestation, dégradation de l'écosystème, sans compter l'impact auprès des habitants dans un rayon de 10 km. La protection de la nature demande une projection réelle de l'impact irréversible d'un tel projet. Merci beaucoup.
C'est bien noté. Merci à vous. Direction maintenant la Haute-Garonne. On va rencontrer donc des jeunes. Parole de jeunes, donc rencontre avec des étudiants qui apprennent à voler. Eh oui, qui apprennent à voler. Donc à faire péter aussi le taux de CO2. Alors il y avait Clara Riffaut, il y avait Mathilde Merlan et Ainhoa Yassoussa qui donc vont nous raconter leur histoire. Bon alors Ainhoa, peut-être que l'endroit n'est pas forcément très bucolique pour se rencontrer, quoique, hein, quand même dans ce jardin de l'ENAC, eh bien, il y a quand même un petit peu d'espace vert. Bonjour Ainhoa.
Bonjour.
Alors Ainhoa, donc, vous êtes une étudiante parmi les 1500, on va dire, étudiants ici à l'ENAC. Alors l'ENAC, c'est l'École Nationale de l'Aviation Civile. Nous sommes à Toulouse. Bon, l'aviation civile, on va se dire, effectivement, quand même, pollution, CO2, ça marche quand même pas mal. Mais qu'est-ce que vous avez voulu faire avec vos copines, parce que vous avez créé votre bureau solidaire pour les étudiants.
C'est ça. Donc on a voulu créer une association qui voulait sensibiliser le personnel et les élèves de l'ENAC au développement durable, ouais. Donc par des projets concrets et simples. Donc l'idée, c'est de rendre le développement durable facile d'accès, ouais, aux élèves et au personnel. Ça peut être un projet compost, donc implanter un compost sur le campus, mm-hmm, donner des sacs pour recycler et pousser les gens à trier et prendre conscience que les déchets, ça se trie et ça se recycle.
Parce que ça, ils le font pas, donc.
Ils le font pas, c'est ça. En fait, on n'a qu'une poubelle par chambre, donc on peut pas faire le tri. Après, il y a d'autres projets aussi plus sur l'humanitaire. Donc, on va faire des maraudes dans le centre de ville de Toulouse. L'idée, voilà, c'est d'un peu sociabiliser ces gens sans abri. Et pendant 5 minutes, on va leur parler, on va leur apporter à manger et des vêtements. C'est juste pour qu'ils aient un contact humain qu'ils perdent souvent dans la rue.
Alors, ce qui est quand même assez génial, toutes les trois, vous avez 21 ans.
Oui.
Bon, vous êtes quand même dans un secteur, l'aviation, qui n'est pas le réputé, on va dire, le plus propre du monde, on le sait. Même s'ils font des efforts, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui vous motive les unes et les autres, Mathilde Merlan?
Pour nous, en tout cas, le développement durable, c'est un mode de vie. C'est-à-dire qu'on a beau être dans l'aviation ou des fois, c'est vrai qu'on pollue. Si chacun, dans la vie quotidienne, on apprend à trier nos déchets, à réfléchir en se disant quel est mon impact sur le monde, comment est-ce que je pollue, comment est-ce que je vis. Si déjà, nous, on fait cet effort personnel de faire attention, et dans le monde du travail, forcément, ça va se ressentir. Et du coup, ça va engendrer un mouvement global, un mouvement, on peut espérer, international, et du coup, que ça change les choses.
Ouais. Alors, Ainhoa Yassoussa, vous êtes une Pays basque. Hein,
oui, je viens du Pays basque.
Il me semble. La motivation, quelle est-elle?
Moi, c'est vraiment pour donner un sens à ma vie, parce qu'on a l'impression que dans l'industrie, on nous pousse à être de plus en plus rentable et avoir de l'argent, être efficace et tout ça. J'arrive pas à être motivée par ces objectifs. Donc je veux être dans l'industrie, être ingénieur, mais quand même responsable vis-à-vis de l'environnement. Et c'est aussi, je considère qu'on est dans une école, et là on va former les futurs ingénieurs, les futurs pilotes, et si dès le début on les sensibilise pas au développement durable, c'est pas après dans l'industrie qu'ils vont l'être.
C'est venu comment, en fait, cette sensibilité à l'environnement? Est-ce que c'était toute petite au Pays Basque? Comment ça s'est passé?
On a tous eu ça dans les écoles primaires, des interventions sur le gaspillage de l'eau et tout ça. Je passais toujours derrière ma mère pour couper les robinets et tout ça quand elle faisait le ménage. Et aussi, c'est grâce à, du coup, Together for Earth, le mouvement étudiant créé à Centrale Nantes l'année dernière, qui regroupe toutes les assos développement durable d'écoles d'ingénieurs, de commerce, ça. Et c'est vraiment en rencontrant ces personnes et en faisant l'addition de tous leurs motifs, de tous leurs objectifs, que je me suis créé un peu cette envie pour le développement durable.
Ainhoa, qu'est-ce que vous répondez, donc, je sais pas, aux copines, aux copains qui parfois ont eu un petit sourire? Parce que voilà, donc 1500 étudiants, ils adhèrent pas forcément. On va dire qu'il y en a certains qui restent neutres par rapport à ça, et d'autres qui se disent « ah oui, effectivement, ils n'ont pas tort, mais j'y vais pas ». Enfin voilà, comment on les motive?
Je pense que la bonne méthode à employer, ou en tout cas celle qui marche avec les jeunes, c'est vraiment de montrer ce que eux, ça peut leur apporter, en fait. L'aborder d'une manière plutôt ludique. Ce qu'ils essayent de faire, les gens, aujourd'hui, et même on le voit avec les influenceurs, c'est de rendre le développement durable un peu stylé, un peu à la mode.
clairement, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et c'est ce qui va marcher en fait. Parce que
faut que ça devienne tendance.
Voilà, faut que ça devienne tendance. Parce que on voit bien qu'en fait, même si les tendances ont beau être ridicules, les gens vont les suivre. Donc en fait, si on peut rendre le développement durable tendance, les gens vont prendre conscience et ils vont se dire « Ouais, mais c'est plutôt pas mal, je vais faire ça. » Et après, ils vont réaliser tous les enjeux qu'il y a derrière. Donc pour, je sais pas, 10 minutes de plus de préparation de votre tupperware que vous emmenez au lieu de prendre un sandwich ou quelque chose comme ça, vous prenez 10 minutes d'organisation, mais au final, ça vous apporte plus de bénéfices.
Ainoa, une page Facebook, laquelle ?
C'est tout simple, on s'appelle Bureau Solidaire de l'ENAC.
Bureau Solidaire de l'ENAC.
Voilà, Bureau Solidaire de l'ENAC, donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Plus largement, on fait partie de Together for Earth, donc le mouvement étudiant qui regroupe toutes les assos développement durable d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, de fac. Donc c'est vraiment un mouvement national.
Alors ça, c'est intéressant parce que vous organisez en commun aussi des opérations. Racontez-nous.
Donc ça a été initié par Centrale Nantes, ce mouvement. Et l'idée, c'est de regrouper toutes ces associations développement durable.
Étudiantes.
Étudiantes, voilà, autour d'un objectif. Et comment on peut se rassembler ? Ben, on se rassemble avec une action commune par mois.
Par exemple ?
Par exemple, au mois d'octobre, la thématique, c'était les disco soupes. Donc, chaque membre de Together for Earth a organisé une disco soupe dans son école. Donc, à la fin, on fait un petit bilan pour dire, ben, en France, je sais pas moi, 50 disco soupes ont été organisées. Plus de 200 kilos d'invendus ont été récupérés. Et comme ça, en fait, ça a plus de poids.
Ça marque.
Voilà, ça marque plus. Et par exemple, là, au mois de novembre, la thématique, c'est alimentaire. Donc, en relation avec le festival alimentaire. Mais aussi, c'est un peu plus global. On va mettre en place des AMAP dans les écoles. Donc, en fait, c'est réapprendre les choses simples, finalement, aux étudiants.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Ah ben, que les projets s'appliquent et soient entendus dans la France entière, voire à l'international.
Après, ça va être quoi ? Vous allez piloter les avions ? Vous retrouvez dans une tour de contrôle ? Je sais pas.
Non, nous, on s'occupe pas de ça. On laisse ça aux élèves pilotes de ligne, aux contrôleurs. Mais après, bon, là, je vais parler plus personnellement. Mais ouais. Moi, je pense que je vais pas me tourner vraiment vers l'aéronautique. Je me suis trop attachée à l'environnement, au développement durable. Et je pense que je vais continuer dedans. Ouais. Donc, soit à travers du web design ou quelque chose comme ça, pour soit créer des applications en lien avec développement durable comme Too Good To Go ou des choses comme ça. C'est sûr que je veux rester dedans là.
Mathilde.
Alors moi je suis plutôt tournée dans les télécommunications spatiales, donc moi contrairement à Ainoa, je crois que je vais y rester. Par contre c'est vrai que il y a toujours cette question du quand on est en entreprise, est-ce que on pourra à la fois travailler comme on l'entend et en même temps garder nos convictions vers le développement durable. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais faire appliquer, dans le sens où si jamais je me rends compte que l'entreprise va pas dans le sens du social ou dans le sens de l'environnement.
Vous la quitterez peut-être, puis vous irez ailleurs.
Oui voilà, soit la quitter, soit mettre des choses en place pour que ça change.
Ou les faire changer à l'intérieur.
Voilà, c'est ça.
Ainoa Yasusta, donc, avec ses copines de l'ENAC. Non, c'est intéressant, parce que, évidemment, vous allez me dire, l'aviation, c'est quand même plus de 3% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Mais elle a une très, très grande lucidité, Elles ont plutôt une grande lucidité. Alors, elle se bagarre en interne, Ce que je vous dis pas, que les élèves pilotes et l'environnement, c'est pas simple, Le kérosène détaxé. On voit des projections, quand même, qui sont complètement dingues, 4 milliards 100 millions aujourd'hui de passagers dans le monde. Alors, on dit en 2036, mais comme on dit franchement n'importe quoi et que derrière ça va être des lignes mathématiques pour vous dire que d'ici 2036 on aura 8 milliards d'individus qui vont voler un peu partout, il va y avoir peut-être quelques blocages, C'est pas, mais non, puisqu'on a fait 4 milliards, en 2036 on fera plus. Voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que localement, ces jeunes filles font vraiment des choses. Donc merci beaucoup à ce bureau solidaire de l'ENAC. Ah, mais on va continuer à voler après. Mais oui, après cette chanson, on va voler avec les papillons.
C'est le début, il y aura une fin, mais là c'est le début. C'est là que je t'ai vu. Ta silhouette au loin, c'est là que je l'ai vue. Et tout de suite, tu m'as plu, tu m'as plu. C'est là que j'ai fondu, sans penser au chagrin, ne pensant qu'au début, sans penser à demain. Au royaume suspendu, à t'aborder enfin. Mais j'ai confondu. C'est le début, il y aura une fin. Mais là, c'est le début. C'est là que je t'ai vu. qu'on fait ses voeux.
C'était Gaëtan Roussel, début sur France Inter. Alors là, on va respirer un bon petit coup. On prend le grand air. Ah oui, on les entend, on les entend. Alors, c'est pas des papillons qu'on entend. Mais comme j'ai tourné ce reportage au mois de juillet, eh ben, il y avait de la cigale, il y avait aussi du grillon. Et on va parler papillons dans le jardin des papillons de Digne. Nous sommes dans ce très beau département des Alpes de Haute-Provence. Alors vous allez me dire, l'actualité du papillon, qu'est-ce qu'il nous fait ? Là, au mois de décembre, il n'y en a pas. Bah, c'est faux, parce qu'il hiverne quand même le papillon. Et oui, il se met dans un tas de bois, il se met à l'abri du gel. Le petit vulcain, le pan du jour, le citron. Alors le citron, c'est celui qui met son gilet jaune toute l'année. Je ne sais pas si vous voyez que c'est ça. En général, nos petits papillons, bah, ils vivent entre 3 semaines et 1 mois, mais quelques-uns vivent 11 mois, comme justement ce citron. Alors là, en ce moment, il est soit à l'état de papillon, il est planqué, à l'état de chrysalide, planqué, à l'état de chenille, planqué, voilà. Et je vais vous emmener là, donc, dans ce jardin des papillons donc à Digne-les-Bains, qui a été le premier jardin entièrement dédié aux papillons donc, locaux. Et on va donc découvrir ce monde qui, évidemment, est relié à celui des plantes provençales. On est dans la réserve naturelle nationale de géologie de la Haute-Provence. Ça a été labellisé UNESCO Géoparc de Haute-Provence. Donc ça, c'est très bien. Il y a des coups de tampon partout. Parfait. Le but, c'est quand même d'arriver à sauver les milieux, à garder les milieux en état de marche pour, évidemment, garder aussi les papillons parce qu'il n'y a pas que les abeilles. Tout ceci, évidemment, extrêmement lié. Et on va rencontrer un homme qui est notre monsieur papillon, qui a créé ce jardin. C'est Nicolas Morel, donc au jardin des papillons.
La balade de Denis Chessou.
Voilà, nous pénétrons en fait dans ce jardin des papillons. Et faut imaginer quoi ? Une ancienne friche ici ?
Oui, alors c'était d'anciennes terrasses, les restants, comme on les appelle en Provence. Et lorsque nous sommes arrivés ici en 1999, ce n'était qu'une friche effectivement envahie par les ronces. On se demandait d'ailleurs, c'était quasiment impénétrable si on allait pouvoir aménager ce jardin à papillons.
Alors justement, l'intérêt pour le papillon qui très souvent est afféodé à une plante, deux ou trois, quel est-il ici ?
Ici, il va trouver une diversité botanique extraordinaire, puisqu'on a plus de 500 espèces végétales vasculaires, c'est-à-dire des plantes à fleurs. Alors bien entendu, nous avons introduit certaines de ces plantes, qui sont quand même des espèces végétales autochtones, mais il y avait déjà une richesse botanique assez importante, ce qui nous a permis, dès la première année, d'avoir un potentiel intéressant. Donc ces terrasses, dans un premier temps, il a fallu les débroussailler pour redonner de l'espace et de la lumière, puisque les papillons de jour ont besoin de soleil pour évoluer, pour se développer. Et ce qui a permis à toute une végétation, passez-moi l'expression végétée, de reprendre vie. Et on s'est retrouvé avec tout un cortège de plantes qui étaient étouffées par les ronces notamment, qui ont revu la lumière et qui ont repoussé assez rapidement.
Nous avons évidemment cet arbre emblématique qui est le Buddleia qu'on connaît, qui est l'arbre au papillon. Oui. Je vais presque dire ça c'est facile pour attirer le papillon.
Voilà. Alors l'intérêt c'est qu'effectivement au cœur de l'été, au moment où les autres fleurs commencent à faner, le Buddleia lui constitue une ressource en nectar très appréciable.
Si je suis une chenille, on va commencer par le début. Non, on va commencer par l'œuf peut-être.
Oui, l'œuf. Oui. Donc une femelle va pondre entre 100 et 150 œufs en moyenne. Et il faut savoir que sur ces 100 ou 150 œufs, il n'y aura seulement au bout que 3 ou 4 papillons, vous voyez, on est dans de l'ordre de 3, 4, 5%, pas plus de réussite pour avoir l'imago, c'est-à-dire le papillon adulte. Après l'œuf, donc la chenille va sortir de cette coquille. Vous savez, elle va changer de peau plusieurs fois dans sa vie qui dure à peu près 5 à 6 semaines. Et comme elle grossit très rapidement, elle change de peau, elle mue comme les serpents. Et sa dernière peau, ça va être la chrysalide. Et c'est dans cette enveloppe que va s'opérer la métamorphose complète, c'est-à-dire le passage de la chenille en papillon.
Ça, c'est une chenille de papillon lune, tu vois. Elle va tisser sa nymphe et rentrer dans sa crie.
Chrysanthème ?
Non, chrysalide. Mais qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école, hein ? Et autour de la chrysalide, il y a le cocon. Tiens, regarde, voilà. ça, c'est un cocon. Et dans une dizaine de jours, ce sera un papillon.
Ce truc horrible, un papillon.
Ah oui, oui.
Là, ça se met à volter. D'ailleurs, c'est intéressant de rappeler l'origine du mot papillonner, comme on dit quand on parle des êtres humains qui vont d'une belle plante à une autre belle plante. C'est oui. Une signification quand même un peu.
Ben, oui, alors en France, ou plutôt dans l'Europe occidentale, c'est vrai que c'est pas forcément une expression flatteuse. Mais les papillons, c'est un peu leur force parce que ça leur permet de coloniser de nouveaux sites. Et sans cette capacité de dispersion et de papillonnage, les papillons seraient voués à disparaître sur les sites où ils naissent.
C'est-à-dire que le but, c'est quand même la reproduction pour le papillon, ouais. Et très souvent, il a une durée de vie assez limitée.
Tout à fait. Alors, c'est 3 semaines à 1 mois pour les papillons de jour en moyenne, mais il y en a d'autres qui vivent un peu plus longtemps. Mais toujours est-il que la première préoccupation, entre guillemets, du papillon, c'est se reproduire immédiatement dans les heures qui suivent sa naissance. Se reproduire, se nourrir, pour donner suite à une future génération.
Allez, peut-être 100 millions en arrière, il y avait déjà des papillons ?
100 millions, oui, c'est à peu près la date repère d'apparition des papillons. Après l'apparition des plantes à fleurs, qui est autour de 140 millions ouais. d'années. Et on a même retrouvé, puisqu'ici on est sur le site de la réserve géologique de Haute-Provence, des fossiles de Thaïs, de Proserpine, donc en Provence, qui sont les ancêtres les plus anciens retrouvés à ce jour de papillons.
Là, on peut découvrir le flambé, on peut découvrir le macaron.
Oui, alors nous avons des papillons de jour, 138 espèces depuis cette année. Mais on a aussi énormément de papillons dits de nuit qui sont beaucoup plus nombreux. On a plus de 4000 espèces de papillons de nuit en France pour 250 de jour, vous voyez l'écart. Et parmi les plus emblématiques, eh bien, nous avons le grand paon de nuit qui lui sort au mois de mai, qui est le plus grand papillon d'Europe, très spectaculaire, aussi bien le papillon que la chenille d'ailleurs. Et on a la chance d'avoir ce papillon en totale liberté ici.
Là, on voit un papillon qui fait son petit travail, donc il est en train de butiner. Et alors, son aspirateur à nectar, c'est quoi ? C'est une langue ? C'est une trompe ?
Alors, c'est la trompe. C'est une trompe qui s'enroule sous les palpes et qui va se dérouler dans le calice des fleurs pour effectivement aspirer le nectar, qui est la principale ressource alimentaire des papillons. Alors, certains papillons ne butinent pas de fleurs, ouais. mais vont se contenter de matières en fermentation ou de fruits pourris. Même parfois d'excréments, ce qui n'est pas très ragoûtant. Mais il faut savoir que le grand Mars, par exemple, ou le grand Sylvain, justement, ne se nourrissent que de ces substances, soit en putréfaction, soit en fermentation.
Et ces papillons, ce sont de véritables maîtres des couleurs.
Oui, alors les couleurs chez les papillons, elles sont en général dues aux écailles qui recouvrent leurs ailes. Ces écailles qui ont aussi le rôle de capteur photovoltaïque, c'est-à-dire ça leur permet de capter la chaleur nécessaire à leur envol. Ces écailles, en fait, elles ne se régénèrent pas. C'est-à-dire, on a coutume de dire aux enfants, n'attrape pas ce papillon, ne lui touche pas les ailes, sinon toute la poudre va rester sur tes doigts. Ben, cette poudre, ce sont donc les écailles. Et comme elles ne se régénèrent pas, si le papillon n'a plus d'écailles sur les ailes, il n'a plus de batterie pour voler par la suite. Et d'ailleurs, c'est ce qui fatalement entraîne, leur déchéance, puisque lorsque le papillon a volé pendant un certain temps, il n'a plus assez d'écailles sur les ailes pour pouvoir voler. Et donc il est condamné à rester à terre et à se faire manger. Les couleurs sont un signe de reconnaissance naturellement entre les sexes, puisque chez certaines espèces, il y a ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que le mâle est différent de la femelle au niveau des couleurs, très souvent plus brillamment orné. Et ensuite, c'est aussi un signe qui peut signaler un danger. C'est-à-dire que vous avez certains papillons comme les hygènes qui sont rouges et noirs, qui sont des papillons toxiques, signalent leur toxicité par ces couleurs vives, alertent l'oiseau oui. sur un...
Tu n'as pas intérêt à manger parce que sinon...
Attention, je suis toxique. Ouais,
voilà. On va rappeler aussi le rôle de pollinisation de certains papillons, pas tous, mais quand même un certain nombre.
C'est vrai que pas tous, parce qu'ils ont tous des trompes de longueur différente. Et donc c'est en fait à partir de leurs pattes, c'est en se posant, c'est surtout essentiellement avec leurs pattes qu'ils vont,
se charger
de pollen et polliniser d'autres fleurs. Les papillons, leur rôle est aussi à jouer en termes de pollinisateurs dans la nature. Et si il y a moins de papillons aujourd'hui, c'est sans doute qu'il y a moins de diversité végétale. Et inversement, c'est un peu un cercle vicieux. S'il y a moins de papillons, eh bien, il y aura moins de plantes par la suite.
Alors vous êtes ici, Nicolas Morel, dans un superbe conservatoire naturel. Et quand je dis conservé, oui, parce qu'on sait encore récemment qu'en Europe, le nombre de papillons a diminué de moitié quand même en 20 ans.
Oui, les papillons de prairie ont diminué de 50% ces 20 dernières années. Alors là, il y a plusieurs
agriculture, pesticides,
classiques, oui. Malheureusement. Mais il y a les effets induits aussi de l'agriculture moderne. Par exemple, ici dans les Alpes-de-Provence, dans cette vallée de la Béonne, on n'a pas de culture intensive. Non. En revanche, toutes les collines qui sont autour de vous...
sont urbanisées.
Alors, soit sont urbanisées au pied, oui. Mais où se sont refermées par l'avancée notamment vous voyez, oui. de la pinède, qui est juste au-dessus de nous, pour limiter l'érosion. On a planté ce qu'on appelle les eaux et forêts autrefois, on a planté ces pins. Mais ces pins, ils se sont tellement bien acclimatés que d'année en année, ils grignotent, prennent du terrain. Et toutes les belles clairières fleuries qu'on connaissait encore il y a 40 ans ont disparu. En tout cas, au niveau des papillons, c'est sûr que l'avancée de la pinède, c'est pas du tout bon.
Pourquoi un homme comme vous s'est intéressé aux papillons, a flashé un jour sur les papillons ?
Parce que je pense que j'ai eu peut-être la chance d'habiter les 10 premières années de ma vie dans la campagne, pas loin d'ici. Et je n'avais d'autre occupation que de courir dans les champs, à observer les insectes et en particulier les papillons. Et ce rapport à la nature, en fait, m'est toujours resté. C'est vrai que sur la région de Digne, il y avait une tradition entomologique au 19e siècle. Beaucoup de naturalistes de l'Europe entière sont venus à Digne, soit pour décrire de nouvelles espèces. Et cette tradition entomologique, c'est un peu perdue au cours du 20e siècle. Et on s'était dit, avec une poignée de papillonneux locaux, ça serait bien si on pouvait un peu redonner à cette région ses lettres de noblesse à travers l'image du papillon. C'est ce qu'on a fait à travers la réalisation de ce jardin.
Vous êtes au point maintenant sur les papillons. Ne me dites pas le contraire. Ah oui, là, on a eu quand même beaucoup de choses grâce à Nicolas Morel. Alors, ce jardin des papillons de Digne-les-Bains, donc dans les Alpes-de-Haute-Provence, rouvrira, on s'en doute bien, pas tout de suite, mais il va rouvrir du côté donc du mois d'avril. Donc, allez-y, parce que vraiment, c'est un endroit où vous êtes ailleurs, quoi. Vous êtes entre parenthèses, même si vous n'êtes pas forcément un entomologiste de premier niveau, peu importe, ça vous fait énormément de bien. Et puis, quand même, moi, je m'étais dit qu'un petit pain de soleil, hein, les deux tiers de la France, tout le monde est gelé. Donc voilà, un petit pain de soleil, ça ne pouvait pas nous faire de mal. L'actualité quand même, c'est que début 2019, il va y avoir un plan d'action pour sauvegarder les papillons qui va sortir. On verra ce que ça donne. Hein. Enfin, derrière tout ça, c'est de la conservation des habitats, pour une fois de plus, que les papillons puissent vivre. Alors, dans quelques instants, ce sera l'association 1% pour la planète et aussi vos messages.
N'existe pas, parfois nous la rêvons, mais elle n'existe pas, ce n'est qu'une intuition. La mer n'existe pas, parfois nous la croyons. Mais ça n'existe pas, ce n'est qu'une illusion. Elle va sur nos croyances, de l'aube jusqu'à l'errance, comme un vaisseau sans mât. La mer n'est plus ici, la mer n'est plus là-bas. On dit qu'elle est partie, mais ça n'existe plus. Mais n'est
pas du voyage entre ici et ailleurs. Notre ciel est là-bas, mais il n'existe pas. Mais elle n'existe pas. Parfois nous la rêvons, mais ça n'existe pas. Ce n'est qu'une intuition. Elle n'existe pas. Parfois elle nous attire dans cette certitude. Qu'elle m'aime comme elle respire, la mer n'existe pas. La mer n'existe pas.
Celle-là est une très belle chanson. Art Mingo, La mer n'existe pas. Et c'est vrai qu'à différentes périodes de glaciation, bah, la mer se retirait, était beaucoup plus basse. Donc elle existe, elle n'existe pas. Voilà, ça c'était donc les phénomènes naturels avant qu'on ait un tout petit peu déréglé le thermostat de la planète. Mais ça c'était une autre histoire. Donc Art Mingo sur France Inter. Et tenez, un message 01 56 40 40 35.
Bonjour Denis, bonjour à tous. Je m'appelle Bernard. J'habite Sofia Antipolis et dans les Alpes-Maritimes. Je voudrais faire savoir notre combat pour arrêter la bétonisation de ce secteur. Disséminée dans la forêt, la technopole de Sofia joue le rôle d'un poumon vert et assure à l'échelle des Alpes-Maritimes la continuité naturelle entre le littoral et l'arrière-pays. Mais en ce moment, de droite comme de gauche, sentant venir la fin de mandat, les élus locaux lancent un programme massif de bétonisation au détriment direct de la forêt. D'ici 2030, on nous promet plus de 500 000 mètres carrés de planchers supplémentaires. Et quand ce qui manque le plus ici, c'est des logements abordables, il n'y a guère que 6% de logements dans ces surfaces. Et pire, les logements sociaux n'en représentent qu'un infime quota parce que les opérations immobilières visent une bien meilleure rentabilité. Résultat, on entend partout des tronçonneuses, on voit fractionner la trame verte jour après jour. La faune va perdre la plupart de ses accès à l'eau l'été et l'artificialisation des vallons aggrave encore le risque d'inondation malgré les drames de 2015, vous vous en souvenez. Et tout ça pour l'ego des élus, leur complicité avec le lobby du béton et de l'immobilier qui convoite en ce moment tous ces espaces naturels avant que ça ne devienne encore plus dur de les attaquer. Qui peut-on appeler au secours dans des contextes pareils? Merci.
Et on va vous dire, bien sûr, vous n'y connaissez rien, mais c'est ça le progrès, c'est ça le progrès. Voilà, alors là, nos amis papillons, à mon avis, hop, bétonnés, il n'y en aura plus. Bon, donc ça, c'était dans les Alpes-Maritimes avec Sofia Antipolis. Alors, on va s'intéresser maintenant à l'association 1% pour la planète. Je vais me tourner vers sa directrice, Isabelle Susini. Racontez-nous, qu'est-ce que le 1% pour la planète, s'il vous plaît?
Bonjour Denis. Alors le 1% pour la planète, c'est d'abord un collectif d'entrepreneurs, d'individus et d'associations qui sont engagés dans la protection de l'environnement. Et le principe, c'est que les entreprises versent 1% de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales.
Donc c'est énorme parce que ce n'est pas 1% de bénéfices, mais c'est bien 1% de chiffre d'affaires.
Oui, on parle bien du chiffre d'affaires.
Et est-ce qu'ils choisissent après ce qu'ils veulent soutenir ou bien comment ça se passe?
Alors le réseau justement regroupe en France presque 200 entrepreneurs engagés et qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires à un groupe de plus de 500 associations qui sont agréées 1% pour la planète. Donc ils sont présélectionnés par le réseau comme étant des associations impactantes sur la protection de l'environnement.
Alors si on fait cela, c'est parce qu'on a priori un engagement, on peut le dire, et aussi évidemment un souci d'image. Enfin, c'est un peu le mélange des deux.
Bah, les deux ne sont pas incompatibles. Bah, l'essentiel étant que ces entrepreneurs passent à l'acte. Le constat qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent qui est consacré à la protection de l'environnement, notamment sur tout ce qui est philanthropie, que ce soit philanthropie des entreprises ou des individus. C'est à peu près seulement 5% des sommes de philanthropie qui sont dédiées à la protection de l'environnement, alors que l'enjeu il est énorme.
Qu'est-ce que l'on a comme exemple aujourd'hui par nombre d'entreprises?
Donc Yvan Chouinard, propriétaire et fondateur de Patagonia, a créé le 1% en 2002. Parce qu'il a souhaité regrouper un maximum d'entrepreneurs philanthropes derrière cet engagement simple, assez pragmatique à l'américaine, qui est 1% du chiffre d'affaires et derrière un logo facilement reconnaissable. Et en France, sur les 200 membres, on a une petite dizaine d'entreprises de taille intermédiaire qui sont, par exemple, dans les cosmétiques comme Caudalie ou comme la marque Sobioéthique ou dans l'alimentaire avec l'étage vrai, Jardin Bio. Et aussi une multitude de toutes petites entreprises qui sont soit des start-up, qui mettent même l'engagement philanthropique avec sur 1% du CA, alors qu'ils ne font même pas de chiffre d'affaires, évidemment encore pas de bénéfices. Ils s'engagent dès le départ à mettre ça dans leur business model, dans l'existence de l'entreprise, c'est d'être philanthrope.
Qui avez-vous aidé cette année?
Sur les 40 projets qui ont été présentés devant une cinquantaine de mécènes, on a aidé 27 projets. Pour une somme de 400 000 euros.
On a besoin d'exemples.
Les deux associations les plus financées la semaine dernière, la première c'est Génération Future. Mmh. Donc eux, leur travail, comme vous le savez, c'est de démontrer qu'il est possible et souhaitable de se passer des pesticides de synthèse et qu'il existe des alternatives. Et eux, leur projet qu'ils nous ont présenté et qui a eu beaucoup de financement, c'était de proposer à travers des vidéos des exemples d'agriculteurs et d'agricultrices qui sont allés vers une transition agricole durable. Et donc en montrant ces témoignages, c'est pour prouver aux autres agriculteurs et ceux qui sont les plus sceptiques que c'est possible et en plus que c'est rentable.
Et puis Claire Douvien aussi avec l'association Bloom. Je précise d'ailleurs aussi que le combat sur la pêche électrique n'est pas fini parce que là il se poursuit, là ça va être extrêmement important au niveau européen. Donc elle aussi a été soutenue.
Absolument, Bloom c'est aussi une association qu'on a soutenue, qu'on avait déjà soutenue l'année dernière lors de ces mêmes rencontres. Et c'est avec le financement de l'année dernière qu'ils ont pu lancer leur campagne contre la pêche électrique. Et cette année, c'est surtout ce qui est le sujet des subventions publiques et l'opacité des subventions publiques. Cette opacité qui favorise un secteur de la pêche qui n'est pas toujours ni transparent, ni bon pour la destruction des océans.
Alors là, vous avez cité en fait deux grosses, on va dire, associations. En tout cas, elles sont connues, c'est-à-dire Bloom d'un côté, Génération Future de l'autre. Est-ce qu'il y en a des plus petites que l'on connaît moins bien qui ont été aussi opprimées?
Ah oui, je pense à Graines de Troc, qui est une association en fait, qui est une plateforme qui met en lien les individus qui veulent échanger des semences, notamment les semences qui n'étaient pas autorisées à la revente, et qui permet donc du coup d'échanger, de conserver un patrimoine qui ça paraît la moindre des choses, de pouvoir reproduire ses propres semences et les multiplier et les échanger.
Alors il y en a une autre, Isabelle Susini, qui est aussi très intéressante, c'est Gulf of Bengal, c'est ça?
Gulf of Bengal, oui, avec son projet de Low-Tech Lab, qui est c'est un projet sur l'île de Lesbos en Grèce, et en fait ils veulent répondre à l'urgence humanitaire dans les camps de migrants, en créant des solutions low-tech, donc des technologies facilement accessibles, pour répondre à leurs besoins de base.
Un grand merci à vous Isabelle Susini, puis donc on peut vous renvoyer sur ce site de 1%, donc pour la planète. À très bientôt, merci.
Merci beaucoup, à bientôt.
Et la semaine prochaine, eh bien, on parlera des lumières sur la ville, une histoire de l'éclairage urbain avec toute son évolution. On s'est dit que le 22 décembre, besoin de lumière là aussi, donc on va pouvoir en parler. Grand merci à Camille Blanès. Denis Chessou, nous vous souhaitons un excellent week-end.